Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal grâce à Mzati.
À la une de l'actualité ce soir, retour au calme cet après-midi après des violents combats toute la mi-journée entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 aux alentours de Kanyabayonga. Nous sommes au Nord Kivu. Depuis une semaine, l'armée et ses rebelles se disputent les contrôles de cette commune rurale stratégique du territoire de Lubero. Les volontaires pour la défense de la patrie, dits Wazalendo, sont sensibilisés depuis le début de cette semaine par les gouverneurs de la province du Nord Kivu au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Rosalie Zawadi nous en parle tout à l'heure. Notre invité est Finet Badibanga, le chef d'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres dans les Haut-Katanga. Il explique la problématique de la circulation de ces armes qui a une incidence sur la sécurité. À toutes et à tous, bienvenue à cette édition de Vos Nouvelles. Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Honneur qui vous, retour au calme depuis cet après-midi après des violents combats toute la mi-journée entre les FRDC et les rebelles du M23 dans les faubourgs de Kanyabayonga. Depuis une semaine, l'armée et ses rebelles se battent pour le contrôle de cette commune rurale stratégique du territoire des Lubero. Selon des sources sécuritaires, le M23, qui s'est renforcé en troupes depuis samedi, a tenté ce dimanche, mais sans succès, d'avancer vers Kanyabayonga en ouvrant deux fronts sur deux axes différents. Deux dispositifs du M23 situés à Bulindi et Maïsafi ont été pilonnés et la tentative des rebelles d'avancer vers Kanyabayonga a été stoppée par l'armée, appuyée par la force et la brigade d'intervention de la MONUSCO. Les FRDC et les casquets bleus mènent des patrouilles autour et dans Kanyabayonga. Restons au Nord Kivu, où des milliers de déplacés vivent un véritable calvaire à Kirumba, une commune rurale du territoire des Lubero. Ces déplacés, en majorité des femmes, enfants et personnes de troisième âge, ont fui il y a 4 jours l'avancée des rebelles du M23 vers la commune rurale voisine de Kanyabayonga. Sur place, il manque de tout. C'est ce que nous dit Martial Papi Mukeba, depuis la ville de Beni.
Des femmes enceintes, des enfants et personnes de troisième âge, sans abri, sans nourriture, sans eau potable et sans accès aux soins de santé primaire. C'est la situation des milliers de déplacés qui vivent à Kirumba après avoir parcouru une trentaine de kilomètres à pied en provenance de Kanyabayonga. Beaucoup d'entre eux se déplacent pour une énième fois après avoir fui les territoires de Rutshuru et Masisi. Richard Kaloumé, président de ces déplacés, explique leur calvaire.
Beaucoup d'entre eux dorment à la belle étoile. Toutes les églises, les salles publiques, les écoles sont remplies de déplacés. Les enfants dorment sur le sol sans aucune couverture. Les femmes enceintes dorment tout au long de la route exposées aux intempéries. Si vous arrivez dans la zone, vous allez vous-même pleurer.
Jacques Kassika de l'organisation nationale Umoja in Action dit craindre une catastrophe humanitaire dans la zone.
Plus de 50 000 ménages déplacés ici à Kirumba, où on a aussi autant. Si rien n'est fait, on va assister à une catastrophe humanitaire difficile à contenir.
Depuis 4 jours, plusieurs humanitaires déployés dans les sites de Lubero pour assister les déplacés ont quitté la zone. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Par ailleurs, la mission conjointe gouvernement central et groupe de coordination des partenaires de la RDC vient de se clôturer dans la province du Sud Kivu. Le chef de la délégation et représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge de l'humanitaire, Bruno Lemarquis, a tenu un point de presse à Bukavu après avoir consulté plusieurs couches de la communauté. Pour Bruno Lemarquis, le désengagement de la MONUSCO ne devrait pas laisser un vide de nature à préjudicier la protection des civils et le reste d'autres acquis légués à la province par la mission de l'ONU. On écoute un extrait du message de Bruno Lemarquis choisi par Jean Kassami.
Un désengagement réussi et une transition réussie nous donneront des leçons pour les phases suivantes au Nord Kivu et en Ituri. À noter que la MONUSCO transitionne depuis très longtemps au Congo, donc nous tirons les leçons de ce qui s'est fait précédemment, notamment au Kasaï et au Tanganyika. C'est l'État congolais qui est en première ligne, mais l'appui des partenaires. Et à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui se font déjà au Sud Kivu. On est loin de partir de zéro. Ce n'est pas une transition entre le gouvernement et les Nations Unies uniquement, mais beaucoup de partenaires sont impliqués. Ça sera un succès collectif. L'importance de toujours travailler, toujours plus en profondeur, sur les causes profondes des conflits qui se manifestent beaucoup dans cette province, notamment les questions foncières, la question de l'exploitation des ressources naturelles, y compris les minerais, les conflits, la question des flux financiers illicites, de nombreux déplacés qui étaient sous la protection quasi exclusive de la MONUSCO, donc il faudra éviter une interruption. Et puis, l'accès humanitaire est très difficile dans cette province.
Nous le disions dans les titres au Nord Kivu, les gouverneurs des provinces sensibilisent depuis le début de cette semaine les volontaires pour la défense de la patrie, dit Wazalendo, au respect des droits humains, du droit international humanitaire et de la citoyenneté. La MONUSCO participe à cette sensibilisation pour insister sur l'importance pour ces volontaires de respecter les droits de l'homme. Pourquoi mener une telle campagne de sensibilisation aujourd'hui? La réponse dans cet élément de Rosalie Zawadi.
Cette initiative vise à réduire les exactions attribuées à certains Wazalendo par le passé. Le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwa Mikuba, a conduit des séances de sensibilisation à Goma, Minova et Bweremana, soulignant l'obligation pour tous ces volontaires de respecter les droits humains.
Le commandant suprême a insisté sur le comportement des Wazalendo, sur les changements, que dès lors qu'ils sont supplétifs au FRDC, ils appartiennent à l'État. Et donc, ils doivent respecter les lois de la République.
Le chef de bureau de la MONUSCO à Goma, Omar Aboud, a également participé à l'une des séances de sensibilisation, réaffirmant l'engagement de la mission à soutenir les efforts du gouvernement congolais en matière de protection des droits humains.
On a discuté les sujets de droits de l'homme, de droits humanitaires internationaux, de conduite et discipline, et aussi la protection des enfants. Et c'est très important qu'on garde ces principes entre nous, surtout quand on est dans un milieu où il y a beaucoup de civils.
Les autorités provinciales se félicitent de l'impact positif de cette campagne de sensibilisation. Des éléments indisciplinés au sein des Wazalendo ont été arrêtés par leurs propres responsables et remis à la justice militaire, démontrant une volonté interne de renforcer la discipline et le respect des droits humains. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Pendant ce temps, les acteurs sociopolitiques, notables et chefs coutumiers de l'Ituri recommandent à l'État congolais de renforcer son autorité dans les zones occupées par les groupes armés pour permettre la mise en œuvre du programme de désarmement PDD-RCS. Ils l'ont fait savoir au terme d'un atelier de 2 jours de réflexion sur les conditions politiques nécessaires de redynamisation de ces programmes pour la stabilité de la province. Au cours de cette rencontre initiée par la section des affaires politiques de la MONUSCO, ils demandent aussi au gouvernement de renforcer la sécurité aux frontières et d'assainir le climat des affaires. À Bounia, une correspondance d'Ezekiel Mouzalia.
C'est au regard de la persistance de l'activisme et des groupes armés en province que cet atelier des réflexions sur des conditions politiques à mettre en œuvre pour la relance du PDDRCS a été organisé. Des discussions ont tourné notamment autour des mécanismes de la restauration de l'autorité de l'État, la circulation d'armes à feu, ainsi que de l'exploitation illicite des ressources naturelles qui continuent à alimenter les forces négatives. Face à ce défi, les participants demandent au gouvernement de renforcer son autorité dans les zones sous contrôle pour pousser les groupes armés à déposer les armes. Luc Malembe, un acteur politique de la place.
Cette possibilité ne peut se réaliser que si l'armée a déjà frappé tous les groupes armés, les a anéantis et les force à remettre.
Pour le député provincial élu Darou et un des facilitateurs du jour, Étienne Ounega Egel, la restauration de l'autorité de l'État doit inclure aussi le renforcement du pouvoir des chefs coutumiers pour leur permettre de sensibiliser leurs fils et filles qui ont pris les armes à les rendre.
Il faudra que ces détenteurs de pouvoir d'État puissent avoir une certaine autorité qui se décline sur l'ensemble des entités qu'il gère, de manière à ce que du PDDRCS puisse se dérouler dans de très bonnes conditions.
Le gouvernement provincial et la MONUSCO encouragent cette démarche pour la consolidation de la paix et soutiennent ces résultats qui vont permettre à l'Ituri de recouvrer sa stabilité. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Politique à présent, le parti Leadership et Gouvernance pour le Développement LGD de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'oppose à toute révision constitutionnelle. C'est l'une des grandes résolutions du conclave que ce parti de l'opposition a organisé ici à Kinshasa pendant 3 jours et qui s'est clôturé hier samedi. Ce parti dit considérer que les problèmes que la RDC connaît actuellement n'ont rien à voir avec la constitution. Par ailleurs, le LGD propose la suppression pure et simple de la CENI qui, selon lui, a échoué dans sa mission d'organiser des élections démocratiques et transparentes. Il propose de la remplacer par une structure internationale indépendante. On écoute Augustin Matata Ponyo Mapon, président du LGD, au micro d'Alain Irunga.
La CENI a été créée pour qu'elle constitue une structure indépendante. Aujourd'hui, on voit très bien que la CENI n'est pas indépendante. Elle est inféodée au pouvoir. Deux, la CENI a été créée pour des élections transparentes et équitables. On voit très bien que la CENI n'est pas à mesure d'organiser des élections transparentes et équitables. Et donc, la CENI a échoué dans sa mission. Et nous avons proposé une solution. Il faut que la CENI soit remplacée par une structure indépendante et de grâce par une structure internationale. Ce n'est pas question de souveraineté nationale, puisque nous avons dit, nous prenons l'exemple, la protection des citoyens et de biens et services dans un pays, c'est une question de souveraineté. Mais parce que l'État congolais n'est pas à mesure de jouer cette fonction de manière tout à fait pleine, mais elle fait recours notamment aux forces armées extérieures. Et dans le cas d'espèce, l'État congolais, à travers la CENI, n'est pas capable d'organiser les élections qui soient transparentes, qui soient équitables. Autant recourir à une structure indépendante pour donner la chance aux Congolais d'aller voter en 2028. Prenons carrément une structure internationale indépendante. Et ça coûterait d'ailleurs moins cher.
Autre aspect d'actualité sur la fréquence de la paix. À Matadi au Congo central, la seule école des enfants malentendants est sur le point de fermer à cause de sa non-prise en charge par l'État congolais. D'après son responsable, l'abbé coordinateur Jean-Jacques Diafouka, c'est depuis le mois de janvier que les enseignants démotivés par les non-paiements ont séché l'école alors que les élèves viennent quand même. Le responsable de cette école des malentendants indique que les démarches sont entreprises depuis 2019 pour la mécanisation de l'école, mais la prise en charge des enseignants se fait toujours attendre. L'abbé coordonnateur Jean-Jacques Diafouka appelle le nouveau gouvernement à penser à l'avenir de cette catégorie d'enfants en répondant positivement et urgemment à la requête de cette école. Radio Kapi Matadi, Nana Plurish Mambou.
D'après l'abbé coordonnateur du complexe scolaire Espérance, depuis le congé de Noël de l'année 2023, les enseignants ne se présentent plus à l'école. Ces encadreurs des enfants sourds, muets, démotivés sont au nombre de 65. Ils sont non payés depuis 2021, année marquant la fin de l'appui financier de la Caritas Autriche à cette école. L'absence de ces enseignants compromet l'encadrement de près de 150 élèves malentendants qui fréquentent cette unique institution viable d'enseignement spécialisé de la province du Congo central, laquelle organise deux classes de la maternelle, 8 du primaire et 8 du secondaire. Et pourtant, selon l'abbé coordonnateur Jean-Jacques Diafouka, certains parmi ces élèves insuffisamment encadrés devront affronter l'examen d'État, l'ENAFEP ainsi que les TENASOSP. Ces derniers appellent le nouveau gouvernement à placer la préoccupation de cette école parmi ses priorités de l'année 2024 pour permettre aux enfants malentendants de Matadi d'étudier en bonne et due forme. Rappelons que le complexe scolaire Espérance des enfants malentendants est construit par la Caritas Matadi avec un financement de la Caritas Autriche. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Direction la province de la Tchopo, où l'archidiocèse de Kisangani s'est dit préoccupé par l'assainissement de l'environnement. En effet, l'évêque auxiliaire a mobilisé hier les fidèles chrétiens au ramassage des déchets et au balayage des environs immédiats du marché central. Parmi les participants à cette activité, des professeurs d'université, des fidèles chrétiens ainsi que le coordonnateur provincial de l'environnement. Qu'est-ce qui a poussé l'église catholique de Kisangani à s'investir aux travaux d'assainissement? Jacques Mkonkole.
Mouillé en soutane noire et coiffé de sa calotte, Monseigneur Léonard Ndjadin Djaté a mis au-dessus de son costume épiscopal un gilet vert aux rayures. Balai long aux mains garnies des gants, il a balayé et ramassé des sachets et autres ordures le long de la route et dans quelques avenues du marché. À ses côtés, quelques fidèles mobilisés pour cette fin. Selon lui, l'archidiocèse de Kisangani répond à l'appel du pape François pour la protection de notre maison commune, à savoir l'environnement. Il demande à la population de poser des gestes verts.
Ce sont des gestes qui vont dans le sens de la protection de la nature et qui vont dans le sens de humanisation de relations interpersonnelles et par rapport aux dirigeants, c'est lancer ce plaidoyer, un message fort pour qu'ils prennent à cœur la problématique écologique, qu'ils mettent des moyens pour assainir notre ville.
Cette initiative est saluée par bon nombre de personnes, à l'instar du coordonnateur provincial de l'environnement. Félicien Malou promet la contribution officielle de son son service à ce projet.
Il faut de leur trouver un site aussi pour les décharges afin que ces déchets soient traités et pourquoi pas recyclés.
Signalons qu'en rapport avec cet appel du pape François, l'archidiocèse de Kisangani va bientôt créer un bureau diocésain pour la pastorale écologique. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Parlons culture dans ces journaux. La Société congolaise des droits d'auteur et droits voisins Sokoda procède du 31 mai au 11 juin à la répartition des droits d'auteur des auteurs, compositeurs, éditeurs ou producteurs et des auteurs dramatiques. Cette opération vise 206 sociétaires et c'est pour le deuxième semestre de l'année 2022 des recettes provenant des provinces du Haut-Katanga, Congo central et Kinshasa. Le directeur général intérimaire de la Sokoda, Joe Mundonga Moyama, explique la symbolique de cette opération au micro de Jean-Marc Matoki.
Cet exercice est très très symbolique dans la mesure où, pour la première fois depuis 13 ans de son existence, que la Sokoda procède au paiement des droits d'auteur des artistes et créateurs en observant les normes universelles de la gestion collective des droits d'auteur en matière de la répartition des droits. Ceci est le fruit des réformes opérées en la matière. Parlant de cet exercice, la répartition dont question à l'issue des opérations des sondages, comme vous avez entendu parler, et des collectes de programmes des œuvres d'esprit auprès des utilisateurs d'œuvres d'esprit dans les provinces du Haut-Katanga, pour la première fois, Congo central et la ville de Kinshasa. Les données qui devaient nous provenir des provinces du Sud-Kivu et de la Tchopo ne nous vont pas parvenir dans les délais requis pour des raisons indépendantes de notre volonté. Elles seront exploitées à la prochaine répartition, c'est ça le principe. D'où la Sokoda va rémunérer le droit d'exécution publique de 206 bénéficiaires. 206 bénéficiaires de droits, des œuvres musicales et dramatiques.
L'actualité, c'est aussi le sport avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Sachez que la boxeuse Brigitte Mbabi vient de se qualifier. Elle a obtenu son ticket ce dimanche à Bangkok, en Thaïlande, au dernier tournoi qualificatif international en battant la Cap-Verdienne Ivanusa Moreira par arrêt de l'arbitre au troisième round dans la catégorie des 66 kilos d'âme. Au total, Brigitte Mbabi a remporté 4 combats dans ses éliminatoires pour s'adjuger le précieux sésame. Ainsi, 3 Congolais vont représenter la RDC en boxe à ces rendez-vous de Paris. Il s'agit de Marcela Sakobi, Peter Kabeji et Brigitte Mbabi.
Actualité internationale.
C'est la fin d'une hégémonie politique en Afrique du Sud. Le Congrès national africain ANC, le parti de Nelson Mandela, n'est plus en mesure de gouverner seul. Avec seulement 40,21% des voix obtenues aux élections générales, selon les résultats provisoires de la commission électorale, après dépouillement des 99,85% des votes, l'ANC perd sa majorité et va devoir former une coalition. Au moins 33 agents électoraux indiens sont morts à cause de la chaleur les derniers jours des élections nationales hier dans le seul état d'Uttar Pradesh Nord, déclare un responsable électoral, alors qu'une partie de l'Inde subit une succession de vagues de chaleur exceptionnelles. Une compensation financière de 1,5 million de roupies, soit 18 000 dollars américains, sera versée aux familles des personnes décédées, précise ce dimanche Navdeb Rinoy, directeur général des élections de l'État d'Uttar Pradesh, aux journalistes.
L'invité.
Il s'appelle Finet Badibanga. Il est le chef d'antenne de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres dans les Haut-Katanga. Il revient sur la problématique de la circulation de ces armes qui a une incidence sur la sécurité. Finet Badibanga s'entretient avec Jean Gandou.
Finet Badibanga, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Gandou.
En quoi consiste le travail de la Commission nationale de contrôle des armes légères et de petits calibres que vous pilotez dans la province du Haut-Katanga?
C'est une structure étatique qui dépend du ministère de l'Intérieur, qui travaille avec un arrêté interministériel, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, qui pilote d'ailleurs, accompagné du ministère de la Défense, ainsi que le ministère des Affaires étrangères. Notre mission, c'est d'aider le gouvernement dans le but de combattre, d'éradiquer, de voir les responsabilité, ou plus sur la circulation illicite des armes légères et de petits calibres et de la violence armée.
Mais nous savons qu'ici, dans la province du Haut-Katanga ou à Lubumbashi en particulier, il y a des armes qui crépitent de partout. Jusqu'à présent, on ne sait toujours pas à qui ces armes appartiennent.
Exactement. Nous sommes en train de travailler un peu là-dessus. Le problème, c'est que récemment, il y a l'opération de marquage des armes sur les éléments de force de défense, de sécurité, c'est-à-dire la PNC et les FRDC. Alors, on a pu faire ce travail. Jusque-là, nous avons un rapport partiel, donc de la clôture au niveau de la ville de Lubumbashi. Il nous reste encore la ville de Likasi, ainsi que la ville de Kasumbalesa, y compris aussi les territoires. On va pouvoir continuer avec tous les éléments de force de défense, c'est-à-dire PNC ainsi que les FRDC.
On peut connaître le nombre de détenteurs d'armes dans la ville de Lubumbashi qui sont répertoriés par vos services?
En fait, nous sommes en train de nous battre pour présenter au gouvernement provincial ainsi qu'au conseil de sécurité un fichier fiable, raison pour laquelle présentement je ne saurais pas vous dire combien, même si nous sommes en train de travailler là-dessus. Dans les jours, peut-être à venir, vous aurez quand même la réponse là-dessus.
Qui peut détenir une arme légère de petit calibre et quelles sont les conditions pour y accéder?
La loi autorise à tout citoyen congolais de se protéger si la personne est beaucoup plus menacée. Mais cette procédure, il y a des préalables, il y a des conditions. Les conditions, en est qu'il faudrait d'abord qu'on sache qui est la personne qui a besoin de la protection, qu'il doit être muni d'une arme. La personne fait quoi tout d'abord dans la vie? Il faudrait que son casier judiciaire soit réellement clean. Parce qu'il y a de ces gens-là, peut-être, qui cherchent à se venger d'une manière ou d'une autre. Il va chercher une arme. Oui, chercher une arme, c'est pas un problème. Mais nous, à notre niveau, nous avons un service technique qui fait des investigations, savoir réellement qui est cette personne, connaissant même là où la personne réside. C'est ça le travail que nous sommes en train de faire, avant de coutoyer à qui que ce soit le document qu'il faudrait pour la détention d'une arme. Ici, par exemple, à Lubumbashi, quand nous sommes en train de parler, que nous sommes en train de lutter contre l'accumulation des armes à feu, vous retrouverez ici à Lubumbashi, il y a de ces gens-là qui sillonnent même en pleine journée avec les armes dans leur véhicule. C'est quoi ça finalement?
Des civils,
oui. Pourtant, ils ne sont pas autorisés. Et ces gens-là, si vous essayez un peu de voir, c'est nous, notre service technique, qui fait un document pour que, au niveau national, qu'on ait maintenant à coutroyer à la personne le permis de port d'armes. Si vous sillonnez à Lubumbashi, tous ces gens-là qui se disent qu'ils sont détenteurs des armes, est-ce qu'ils ont le permis de port d'armes?
Et ces armes proviennent d'où?
Nous sommes en train de recenser même les fabricants des armes artisanales. Nous sommes en train de les identifier. De manière à ce que, si peut-être quelqu'un venait avec une arme, nous saurons que ça vient de tel endroit. Et il y a de ces armes-là peut-être qui viennent de l'extérieur.
Comment sont-elles entrées sur le territoire?
C'est ce que je suis en train de vous expliquer, monsieur le journaliste. Normalement, pour importer une arme, seul le VPM intérieur qui est appelé à délivrer l'autorisation d'importation d'une arme. C'est pourquoi nous sommes en train de tirer aussi la sonnette d'alarme à tous les transporteurs qui viennent beaucoup plus de l'Afrique australe. Donc si le service de sécurité ne sait pas ouvrir l'œil, c'est-à-dire l'insécurité continuera toujours. Raison pour laquelle nous, à notre niveau, nous sommes en train de combattre la circulation illicite de ces armes-là. Alors si on doit donner les armes ou les documents à n'importe qui que ce soit, quel sera maintenant le rôle de la police nationale congolaise? Pourtant la police est là pour protéger les civils ainsi que leurs biens.
Est-ce que vous faites les suivis pour savoir réellement ce que les détenteurs de l'arme ont fait? Quel est l'usage qu'ils ont fait?
Tous ceux-là qui sont déjà passés en oubli, après 3 mois, nous sommes en train de faire une étude approfondie avec ces gens-là. Même l'utilisation de leurs munitions. Parce qu'au moment où la personne vient pour se faire identifier, disant que voilà, j'ai une arme, je viens ouvrir mon dossier, il déclare même le nombre de munitions qu'il a. Après 3 mois, nous sommes en train de vérifier. Si la personne a été menacée et qu'il a utilisé une munition, il faudrait qu'il vienne déjà signaler que non, voilà, moi j'étais attaqué, j'ai utilisé une munition. On sait que sur les 10 qu'il avait, il est resté avec 9. Donc après 3 mois, il y a ce contrôle-là. Nous sommes en train de faire ce contrôle 4 fois l'an.
Finé Badibanga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur Jean Gantou.
Notre invité Finé Badibanga s'entretenait à Lubumbashi avec Jean Gandou. Fin de ce journal, coordonné et supervisé par Jacques-Yves Molima Aouta et Jude Mister Bilanda. La mise en onde était assurée par Debs Vita. La présentation de Grâce à Mzati Masanzi. Merci pour votre attention.